18-20. Fabienne Synthès sur France Inter.
Et Jean-Marc Four qui met le monde à l'envers, comme tous les soirs, dans Un jour dans le monde. Jean-Marc, c'est une sorte de coïncidence de l'actualité, ça tombe plutôt bien, on va dire. En Chine, le président Xi Jinping a obtenu du Parlement ce qu'il cherchait, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de limitation de mandat. Après 5 plus 5 égale 10, il pourra aller jusqu'où il veut. Dimanche prochain, en Russie, Vladimir Poutine va décrocher un quatrième mandat. Ce sera sans difficulté. Donc, ce soir, vous dites, les régimes autoritaires, on le vend en poupe, vive le tsar et vive l'empereur.
Ah, le parallèle est saisissant. Entre le nouvel empereur de Chine et le nouveau tsar de Russie, les autocrates marquent des points. Commençons par le tsar. Vous serez à Moscou dans 3 jours, vendredi, Fabienne, pour nous faire vivre ces élections russes. Mais une chose est quasi certaine, vous venez de le dire, Vladimir Poutine devrait l'emporter dès le premier tour. Pourquoi ? Pour tout un tas de raisons. Il a muselé l'opposition et il n'a pas de concurrent. Il incarne une puissance militaire retrouvée avec des succès à la clé, notamment en Syrie. Il s'est entouré d'une garde rapprochée acquise à sa cause et il entretient savamment le culte de la personnalité. Même recette avec le nouvel empereur de Chine. Vous savez, combien il y a eu d'empereurs en Chine depuis Qin Shi Huang, 2 siècles avant Jésus-Christ?
Non, mais
alors ça dépend selon. Ça dépend selon que l'on compte la totalité des différentes dynasties qui se sont parfois partagées le pays. Alors il y en a entre 280 et 380. Donc on peut dire que depuis le vote du Parlement hier, Xi Jinping peut devenir le 381e. Il peut rester au pouvoir indéfiniment avec les mêmes ingrédients que son voisin le tsar. Répression des voix dissidentes, création d'une garde rapprochée, puissance militaire, culte de la personnalité. Mais le pouvoir chinois a un atout supplémentaire, les succès économiques. Et surtout, il revendique la légitimité du pouvoir autocratique. C'est-à-dire qu'il conceptualise le fait que le capitalisme économique n'a pas besoin de la démocratie politique. C'est-à-dire que pour Pékin, les démocraties à l'occidental sont en perte de vitesse, elles sont inefficaces, elles constituent même une sorte de parenthèse dans l'histoire.
Et donc là, je vous vois venir, vous allez nous dire, en même temps, Pékin n'a pas tout à fait tort.
Exactement, vous lisez dans ma pensée. En tout cas, les démocraties occidentales vont mal. Leur porte-drapeau, on en parlait à l'instant, est devenu un président imprévisible et un peu clownesque. Suivez mon regard, l'homme à la mèche, le sujet favori de Grégory Philips. On ne peut pas dire que Donald Trump soit une publicité vivante pour la démocratie. Les pays européens, c'est pas mieux. Ils sont pour la plupart dans les sables mouvants. La Grande-Bretagne enlisée dans le Brexit. L'Italie ensablée dans son éparpillement électoral. L'Allemagne à l'arrêt quand même depuis des mois, faute de gouvernement. En tout cas, du moins jusqu'à cette semaine. Et quant à l'Union Européenne dans son ensemble, elle somnole. Du coup, CQFD, le modèle autoritaire russe ou chinois séduit. En Europe de l'Est, de la Hongrie à la République tchèque en passant par la Pologne. Et en Afrique où les investissements chinois permettent à bon nombre de potentats locaux de conserver le pouvoir. L'autocratie, mesdames et messieurs, voilà un système efficace.
Donc vous nous annoncer, Jean-Marc, merci de nous annoncer d'ailleurs, un monde russo-chinois pour l'avenir.
Bon, on n'en est quand même pas là, parce que chez le tsar comme chez l'empereur, il y a un petit refus d'obstacle. Vous savez, c'est comme en équitation lorsque le cheval n'arrive pas à sauter. Je m'explique. Avec le tsar, le refus d'obstacle est économique. L'économie russe est fragile, croissance faible, revenus réels en baisse, infrastructures insuffisantes, entreprises peu nombreuses, état lent, inerte. Et dès que le niveau des matières premières, le pétrole, le gaz est en berne, comme aujourd'hui, les ressources se cassent la figure. Poutine n'arrive pas à initier un nouveau modèle de développement économique. Chez l'empereur, le refus d'obstacle est plus culturel et diplomatique. La Chine ne veut pas assumer de leadership géopolitique alors que sa puissance économique l'y conduit tout droit. Et surtout, elle se refuse à développer ce que les anglo-saxons appellent le soft power, cette séduction culturelle, intellectuelle. Xi Jinping parle de rêve chinois, mais franchement, personne n'y croit. Et en Asie, du Japon à l'Inde ou au Vietnam, on serait plutôt du genre inquiet. Par-dessus le marché, le tsar et l'empereur ne sont pas copains-copains. Officiellement, tout va bien entre Moscou et Pékin. En réalité, c'est tendu, en particulier en Asie centrale, en raison du projet chinois de nouvelle route de la soie. En fait, le tsar et l'empereur sont surtout d'accord sur une chose, mettre en pièce le modèle démocratique. Et ça doit suffire à nous inquiéter.